Good Morning Market, le club de la bourse.
Le club de la bourse à 8h38 sur BFM Business et sur AMC Live. C'est avec Wilfried Galland. Bonjour, directeur bonjour. Général adjoint de Montpensier Arbevel. Et avec vous, Olivier Guénaud. Bonjour, vous êtes le directeur des investissements de HSBC Asset Management. Qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent ce matin? On a pas mal de Japon, pas mal de Royaume-Uni. On commence peut-être avec le Royaume-Uni et Keir Starmer, Wilfried, qui est sur la sellette. Probablement une démission dans la journée, remplacée par Andy Burnham. Alors évidemment, quand on parle de la politique britannique, tout de suite, on va regarder le marché obligataire.
Ouais, c'est ça. En fait, quand on a une nouvelle britannique, on regarde la livre, le marché obligataire et la réaction de la banque centrale britannique. Ce qu'on voit véritablement, c'est que le sujet des finances publiques britanniques est devenu depuis quelques années un sujet majeur de marché. Ce qui était moins devenu parce qu'il y avait une espèce de stabilité dans la classe politique britannique sur la façon de gérer les finances publiques. Là, on voit qu'on a beaucoup d'instabilité. Keir Starmer va probablement être remplacé par Andy Burnham, qui a une vision, quand on regarde ce qu'il a fait à Manchester, qui a une vision quand même qui est beaucoup plus agressive en termes d'endettement.
Voilà, exactement.
C'est la branche gauche-gauche. Hein, donc on se décale sur l'échiquier politique. Évidemment, ça inquiète les marchés en disant, mais quel type d'équilibre allez-vous trouver en termes budgétaires, en termes de croissance? Il y a plusieurs problèmes aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Il y a effectivement le problème de l'équilibre budgétaire et le problème globalement de la croissance qui s'effrite. On a une économie qui va pas bien en Grande-Bretagne. La Banque centrale d'Angleterre fait le maximum pour justement stabiliser tout ça. C'est un peu un cas d'école. Hein. Ils sont vraiment extrêmement habiles pour justement gérer les différents équilibres. Mais là, les marchés effectivement s'inquiètent et on voit aujourd'hui, ce matin, des impacts qui sont déjà très forts sur le taux britannique.
Etienne,
on doit pas être loin de 5 là.
Oui, toujours proche des 5%. Ouais. Hein, on est à 4,90 quasiment.
Ouais. Quand même, donc c'est bien monté déjà depuis.
Oui, sachant que ça avait déjà monté vendredi par anticipation.
On a quasiment à 10 points de base de plus ce matin. Quasiment.
Quand même, Olivier Guénaud, comment vous regardez le marché obligataire britannique?
Alors, il faut voir en plus ce qui a été dit que l'économie britannique, et c'est comme ça que les intervenants de marché le regardent, a eu une inflation de sous-jacente qui a toujours été relativement importante sur le dernier cycle, avant même les événements du détroit d'Hormuz. Et donc, vous avez eu régulièrement des épisodes où les obligations britanniques étaient sous pression parce que l'inflation montrait des chiffres de 3,5% par an. Des augmentations de salaire qui étaient importantes.
À cause de quoi? À cause de l'énergie qui est plus chère?
C'est vraisemblablement dû. Il y a eu plusieurs effets. Il y a eu un effet de rattrapage des salaires du secteur public qui continue, qui fait que les salaires ont pas mal augmenté. Et puis, vous avez eu le fait que c'est une économie qui est quand même relativement étroite, entre guillemets. Vous avez eu des choses qui ont fait que cette inflation effectivement est restée...
Mais on peut dire qu'ils se sont parmi du Brexit, c'est-à-dire que globalement, 10 ans plus tard...
Je pense que le Brexit peut avoir un impact sur le sujet, mais il pourrait très bien mieux se passer que ça actuellement. Encore une fois, je pense qu'il faut voir un peu plus loin. S'il y a une détente sur le détroit d'Hormuz, vous avez la possibilité effectivement d'avoir des vents qui sont un peu plus favorables, je dirais, pour les rendements obligataires britanniques. Et ça peut permettre aussi à certains investisseurs maintenant de rentrer sur le portage.
Wilfried.
Oui, ce que les Britanniques ont mal mesuré au moment du Brexit, c'est que ils étaient en déficit structurel de leur balance des paiements et donc ils avaient besoin de financement permanent. Ce que certains intervenants de marché un peu taquins appellent,
c'est parce qu'a vendu Nigel Farage, quoi.
Ouais,
c'est
voilà,
la balance des paiements.
En disant globalement, vous êtes considéré comme une économie émergente en fait. Vous avez les modes de financement d'une économie émergente sur les marchés financiers. Et donc quand vous avez la protection de l'Union européenne, même si vous n'avez pas la protection de l'euro autour de vous, il y a un côté stabilisateur. Dès que vous l'enlevez, effectivement, vous êtes beaucoup plus exposé au vent de marché tel que vous l'avez subi depuis le Brexit. Et donc, il faut que vous ayez une politique, à la fois une politique monétaire sur l'inflation, mais surtout une politique de croissance, une politique économique, une politique budgétaire extrêmement sérieuse pour surtout ne pas inquiéter, pour ne pas avoir ce qu'on appelle, maintenant on appelle quand même sur les marchés l'effet Listruss. On parle en France de dire qu'il ne faut pas qu'on ait l'effet Listruss. C'est-à-dire d'un seul coup, on présente un budget qui n'est absolument pas crédible, et d'un seul coup, tous les marchés dérivent, et on est obligé de faire machine arrière. Là, aujourd'hui, l'Angleterre est vraiment dans une situation compliquée.
Etienne, on rappelle ce que c'est que l'effet Listruss?
L'effet Listruss, c'est quand...
Avec la salade.
À l'époque, elle avait présenté sa trajectoire son budget, et puis que d'un seul coup, il y avait une panique généralisée, que ce soit sur la livre, que ce soit sur les rendements des obligations britanniques, et à la fin, elle n'avait pas le choix.
Sur les fonds de pension, parce
que... Et ça avait dépassé les 5. Hein,
ouais, parce qu'il y avait des appels de marche sur les fonds de pension britanniques, et d'un seul coup, hop.
Et elle a démissionné. C'est-à-dire que ça a été radical.
Exactement.
Autre actualité sur les marchés financiers ce matin, ce Nikkei qui a franchi la barre des 72 000 points et ce Yen sous ses niveaux depuis 86. On est sur des records par rapport au dollar, Étienne.
Oui, le Yen n'arrête pas de baisser depuis des semaines, des mois maintenant. Alors au mois d'avril, fin avril, début mai, vous avez le gouvernement qui a injecté de l'argent massivement afin de reprendre le Yen face au dollar. Bon, ça fonctionnait, mais que quelques jours seulement. La semaine dernière, la Banque centrale du Japon qui a augmenté ses taux, taux directeur à 1%, c'est une première depuis 1995, pour là essayer de reprendre en main la devise japonaise. Et rien n'y fait. C'est-à-dire qu'encore ce matin, vous avez un yen qui continue de glisser, d'autant plus que, hasard de calendrier, ça intervient pile au moment où vous avez un nouveau patron à la Banque centrale américaine, Kevin Warsh, qui a l'air déterminé à combattre l'inflation. Et donc, le marché se dit, forcément, si vous avez une banque centrale qui relève ses taux dès le mois de septembre, il faut acheter du dollar. Et donc, vous avez un dollar qui se renforce, que ce soit face au yen, mais face aussi également à la livre ou encore face à l'euro. C'est totalement généralisé, cette reprise du dollar.
Un mot sur le Japon, Wilfried ?
Oui, alors déjà, c'est un domaine sur lequel tous les analystes, et je me mets évidemment dans le lot, se sont tellement trompés dans les dernières années qu'en fait, on y va vraiment avec d'infinies précautions. Ce qui se passe avec le Japon, et on en parlait avec Étienne avant de rentrer sur le plateau, c'est que clairement, la parole ne suffit plus. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'engagements des autorités, que ce soit des autorités budgétaires japonaises ou des autorités monétaires japonaises, en disant vous allez voir ce que vous allez voir, nous allons intervenir et nous n'allons pas supporter que le yen, c'était déjà depuis 150 yens pour un dollar, donc maintenant on est au-delà de 160, nous n'allons pas supporter cette dégringolade. En fait, on se rend compte que ça ne suffit pas et que les interventions sur le marché d'échange ne sont jamais suffisantes, y compris quand on a des moyens importants comme la Banque centrale japonaise. Il faut donner confiance dans la trajectoire à long terme de l'économie. La trajectoire d'une devise, c'est d'abord et avant tout la confiance dans l'économie et dans sa capacité de financement. Ce n'est pas tellement le différentiel de taux d'intérêt. Si effectivement vous avez un différentiel de taux d'intérêt, ça aide. Malheureusement pour eux, ils tombent dans un épisode où les taux d'intérêt mondiaux, les taux d'intérêt du dollar remontent, donc ça ne les aide pas. Mais autrement, on n'a pas confiance dans la trajectoire de l'économie japonaise.
Mais comment on peut avoir, vous qui êtes un spécialiste des marchés, un Nikkei qui booste comme ça et puis un yen qui s'effondre?
Exportation. Exportation.
C'est justement les grandes périodes du marché japonais depuis l'après-éclatement de la bulle du marché japonais, après 90, c'est justement lié au fait que quand vous avez un yen qui baisse, les exportations sont compétitives. Plus exactement, les entreprises japonaises qui ont des produits de qualité gardent les prix en dollars au même niveau et explosent leur marge grâce à la faiblesse du yen. Donc ça va souvent de pair. Moi, je rejoins ce que vous disiez, Étienne. Je pense que le sujet principal, c'est la force du dollar. Et c'est ce qui s'est passé la semaine dernière, plutôt à la Fed.
Avec cette arrivée de Kevin Warsh.
Absolument.
Et donc ces taux qui vont bouger, pas bouger, vous êtes dans quel état d'esprit, vous ?
Ce que dit le président de la Fed, c'est que déjà lui il donne pas de guidance, comme on dit, il donne pas de perspective. C'est le seul d'ailleurs dans les 18 qui va pas le donner. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que les intervenants de marché, suite à l'accord qu'il y avait eu sur l'ouverture potentielle du détroit d'Ormuz, s'attendaient à ce que la Fed ait un discours qui soit beaucoup plus mesuré, et que en fait, il a délivré à la fois un discours qui était assez haussier, et en plus, il a vraiment remis le point sur l'inflation à moyen long terme, et donc les marchés ont été pris un peu de court, et c'est vraiment la hausse du dollar et la hausse des taux à court terme dans les 3-4 mois qu'on a vu, qui ont changé un peu le marché.
Étienne, il a un peu déçu ceux qui pensaient qu'il était très colombe, Kevin Warsh.
D'autant plus que vous aviez quand même Donald Trump qui, depuis des mois, veut des baisses de taux. Là, en tout cas, à court terme, Kevin Warsh, il a dit non, pas question de baisser les taux. Les anticipations, elles se sont retournées d'une façon spectaculaire. C'est-à-dire que désormais, la probabilité d'une hausse de taux, c'est un peu en juillet, mais surtout dès le mois de septembre. Alors qu'avant la Réunion, c'était probablement fin d'année, voire début d'année 2027. Donc il y a eu un gros retournement à la suite de cette réunion. Le dollar qui s'est renforcé. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le pétrole est sous les 80 dollars hein, depuis quelques jours maintenant, et ça ne change pas la donne. C'est-à-dire que là, le pétrole, maintenant, il est sous les 80 dollars. Encore ce week-end, il a un peu bougé, mais pas tant que ça, hein, par rapport à la fermeture du détroit. Ouais.
Mais sur les taux, ça ne change pas.
Et sur les taux, ça ne change pas. Et sur le marché actions, vous voyez, ce matin, on est stable en préouverture. Enfin, vous avez un marché qui, aujourd'hui, s'est un petit peu déconnecté de cette situation au Moyen-Orient, en disant, mais de toute façon, il y aura une paix. Quoi qu'il arrive, il y aura une paix. Et donc, que ce soit sur les commodities, les actions, etc., ça bouge assez peu.
Wilfried, il va être Kevin Too Late, lui aussi.
Non, en fait, pour l'instant, c'est Kevin Gain Time, c'est-à-dire c'est je gagne du temps en donnant une méthodologie, hein, la méthodologie de ces fameux 5 groupes de travail, et surtout en ne prenant, comme Olivier l'a dit, aucun engagement. Et donc, on s'attendait effectivement à une trajectoire plutôt baissière des taux. Globalement, les marchés sur les 3 prochains mois disent peut-être après, il va y avoir des changements. Et donc, ils se gagnent du temps. Et ça, c'est effectivement la grosse nouveauté. C'est-à-dire que on va avoir des changements qui sont considérables à la Fed. Et donc, les marchés, en fait, se déconnectent des discours aujourd'hui de la Fed en disant on va en savoir plus probablement en septembre ou en octobre. Et là, effectivement, on prendra des positions. Je pense que les positions qui sont aujourd'hui des positions de marché sont des positions qui sont d'abord très peu marqués en fait hein. Quand on regarde des probabilités ils sont faibles, ils sont certes plutôt à la hausse mais ils sont faibles et donc les marchés ne s'engagent pas sur la trajectoire de taux américaine, ils s'engagent sur autre chose, c'est-à-dire que l'économie américaine va bien, oui. Donc le dollar va bien et donc le pétrole va continuer effectivement à ne pas, on va rester entre 75 et 80 dollars le baril.
Olivier, il n'y a que l'intelligence artificielle qui drive, il n'y a que ça qui compte.
Et à la fin, il n'y a que l'IA.
Et à la fin, c'est ça, il y a que les résultats de Micron, c'est aussi important que l'IA, que les chiffres de l'inflation qui vont être publiés cette semaine.
Ah ben, c'est clair que là, ce qu'on a vu cette semaine encore, après les semaines passées, c'est que cette tendance sur l'IA est persistante. C'est un phénomène de fond, c'est une tendance qui risque de ne pas s'arrêter en termes d'utilisation, de développement de l'IA. Alors pas seulement pour les fameux hyperscalers, mais également pour toute l'industrie, aval, amont. Donc oui, c'est un phénomène important. Mais encore une fois, je pense qu'il faut bien voir que quand vous avez des tensions sur les taux, sur le détroit d'Hormuz, évidemment, ça met la focalisation positive sur l'intelligence artificielle, mais quand vous avez eu des périodes avec un peu de détente ou d'espoir de détente, vous avez eu ce marché qui s'est un peu respiré et d'autres secteurs ont monté. Donc moi je suis tout à fait de votre avis. Les choses vont encore bouger. Il y a une volatilité importante sur les attentes à la fois.
C'est-à-dire là, quand vous devez faire de l'allocation d'actifs, vous faites
On diversifie complètement et ce qu'on va faire, c'est plutôt essayer de prendre au sein de chaque pôle les positions qui nous permettent d'accéder à ce thème à moindre coût.
Par exemple,
sur l'IA, plutôt que de tout focaliser sur les hyperscalers américains ou qui sont très chers, aller plutôt effectivement sur les marchés émergents asiatiques. Vous avez une technologie qui est peut-être pas tout à fait la même, mais qui en tout cas est beaucoup moins chère.
Mais vous n'avez pas beaucoup d'acteurs non plus, quoi. Et des acteurs qui ont tellement monté ces derniers temps, quand on voit la bourse de Séoul.
Vous avez effectivement quand même des secteurs qui sont importants dans le sens où ça fait bouger quand même l'ensemble de la côte taïwanaise, coréenne, etc. Mais même au-delà, même en Chine, vous avez. Je vous rappelle que vous avez des hyperscalers en Chine aussi, donc qui n'ont pas trop bougé, entre guillemets. Donc, vous pouvez accéder à ces thèmes, soit d'ailleurs en amont et en aval également.
Sans acheter Nvidia, quoi.
Sans acheter forcément les 7 grandes actions américaines. Et également,
autre chose qu'Nvidia dans la vie.
Ouais, oui.
Exactement. Et également sur le reste de la côte, parce que c'est ça qui est important, sur le reste de la côte, au moment où il va y avoir de la volatilité, essayer de prendre également des positions sur des secteurs qui ont été délaissés, peut-être injustement délaissés.
Il nous reste une minute. Qu'est-ce qu'on attend à l'ouverture, Étienne ?
stable en préouverture en Europe. Hein. C'est vrai que les marchés sont très résilients par rapport à ce qu'on a pu voir ce week-end. Pétrole toujours sous les 80 dollars. L'Europe stable. Quand vous regardez les futurs américains, très légère baisse. Micron, donc mercredi soir, hein, c'est quand même une boîte qui vaut 1300 milliards, hein, qui a fait x9 en l'espace d'un an. Hein, les résultats devraient être époustouflants. Et bien sûr, le marché attend un petit peu de perspective. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, les marges vont tenir après le parcours spectaculaire de ces derniers mois? Et puis, l'inflation américaine, ça sera donc jeudi à 14h30.
Deux événements à suivre cette semaine. Merci beaucoup, Wilfried, d'être venu ce matin. Merci beaucoup, Olivier Guénot, de nous avoir rejoint dans la matinale de l'économie.